Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment heureux d'être avec vous, puis de revoir aussi certaines têtes de gens avec qui on a déjà l'occasion de collaborer. Ce que je vais vous raconter s'inspire en fait de différentes expériences. Mon travail de chercheur en éducation, et notamment des collaborations avec certains projets d'éducation relative à l'environnement, où on a essayé d'un petit peu évaluer ce qui se passait et ce que ça donnait. Mon travail d'enseignant dans le supérieur. Donc j'ai un regard plutôt pédagogique. Et ce que j'ai voulu faire, c'est structurer mon intervention, j'ai essayé de la structurer, en trois points ou trois tensions que je trouvais intéressantes à réfléchir avec vous ce matin. La première, c'est la question des objectifs et cette tension que je vois, ou les indicateurs, entre des choses qui sont souvent en éducation relative à l'environnement et au développement durable, ou éducation à la transition, très générales et très globales, très à long terme. Et puis, des évaluations qu'on fait souvent à court terme, sur des activités très ponctuelles, très ciblées. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a là une tension assez forte, en fait, qui fait qu'en fait, souvent, quand on essaye d'évaluer les objectifs généraux de l'ERE, objectivement, nous, dans les projets qu'on a fait, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si on fait des objectifs beaucoup plus alignés sur ce qu'on est en train de faire, comme activité et les projets qu'on a fait, on a des choses beaucoup plus claires qui sortent. Mais du coup, ça pose une question redoutable qui est, est-ce qu'on doit revoir nos objectifs? Est-ce qu'on a choisi les bons indicateurs par rapport à l'activité? Est-ce qu'on doit revenir vers des objectifs plus spécifiques, plus précis, mais du coup moins ambitieux? Ou est-ce qu'on doit rester sur des objectifs plus globaux, plus généraux, plus à long terme? Et comment est-ce qu'on fait du coup pour évaluer? Et comment est-ce qu'on arrive à montrer que nos activités contribuent bien à l'atteinte de ces objectifs-là? Donc c'est pour moi une tension quand on parle d'évaluation qui me semble intéressante à creuser dans l'idée qu'évidemment l'évaluation c'est bien toujours regarder est-ce qu'on peut porter un jugement, notamment porter un jugement sur l'atteinte de ces objectifs, d'accord, et donc concevoir des indicateurs. Alors il y a déjà tout un jargon, mais simplement donc ici la question pour moi qui est là derrière, c'est la question du décalage éventuel entre les objectifs qu'on annonce et ce qu'on arrive vraiment à faire dans des activités, souvent qui sont des projets ponctuels, assez courts. Et donc, ce qui me paraissait intéressant par rapport à ça, c'était de décaler un peu la question. Il y a une question fondamentale en pédagogie quand on travaille la question d'évaluation, c'est la question de l'alignement pédagogique. Est-ce que nos objectifs sont alignés avec nos moyens, nos ressources, nos méthodes, et sont alignés avec les résultats qu'on peut évaluer? Je trouvais intéressant de rappeler ça, que vous connaissez certainement, parce que ça décale un peu le problème. C'est-à-dire que si la question devient que ce qui est important, c'est l'alignement pédagogique, ça nous permet pas juste de nous intéresser aux résultats, mais de se demander si, en effet, nos objectifs sont bien en phase avec nos méthodes, ou nos façons de faire, nos dispositifs. Est-ce que nos dispositifs sont bien alignés par rapport aux résultats qu'on évalue, etc. Et de revenir, est-ce que les résultats sont vraiment en phase avec les objectifs? Donc on peut vraiment faire à la fois une réflexion prospective et une réflexion rétrospective en termes d'ajustement. Est-ce qu'on a bien aligné ces différents éléments de façon cohérente? Alors ça ne résout pas tout. Comment est-ce qu'on fait toujours avec ce système, ce problème d'objectifs généraux à long terme? Là aussi, en termes pédagogiques, la réponse elle est en partie dans quitter l'approche activité ou projet pour aller vers plutôt des parcours. À l'école, on dirait des programmes. On va parler de l'approche programme à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on a les objectifs de développement de compétences, etc., dont on sait qu'une activité spécifique ne va jamais suffire. Et donc, il va falloir construire des parcours. On va réfléchir à comment on doit un peu décomposer, articuler en différents sous-objectifs ou parties, pour autant que ce soit possible, et on peut revenir là-dessus plus tard dans le débat, nos objectifs généraux, et plutôt réfléchir, notre activité, elle contribue bien à notre objectif général, mais en fait, elle est où sa contribution? Et elle est limitée, et elle doit s'articuler avec d'autres types de projets d'activité, etc., pour que vraiment on soit sûr qu'au total, on arrive bien aux objectifs généraux qu'on a formulés. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Et donc c'est vraiment l'idée de dépasser l'évaluation stricto sensu d'une activité, pour en effet la réintroduire dans un projet d'éducation plus global, et de voir comment ce que nous on fait vient contribuer à une dynamique, un parcours ou des parcours, et je serais plutôt à parler de parcours diversifiés plutôt que de parler d'un parcours. Mais avec vraiment cette idée pour moi qui est une grande leçon des recherches en éducation, que souvent, quand on fait une activité, on n'atteint que des objectifs très très spécifiques. Et donc, voilà. Alors on peut toujours espérer qu'en semant, finalement, on ne sait pas ce que ça va donner plus tard, mais ça pose quand même des questions assez redoutables. Je regarde le temps comme ça. Ok, donc voilà, ça c'était ma première réflexion, cette tension-là que j'avais envie de pointer entre un projet très très global et puis des activités qui sont quand même très ponctuelles, très spécifiques. Et donc comment on fait pour gérer ça? Et donc peut-être revenir à cette idée d'alignement pédagogique pour réfléchir à l'évaluation et cette idée peut-être de parcours, ce qui nous oblige quand même à être beaucoup plus spécifique sur qu'est-ce qu'on fait dans cette activité-là. C'est-à-dire cette activité-là, elle a son sens où et quand, pour qui, par rapport à un projet plus global, et comment est-ce qu'elle s'articule, comment elle va venir se lier, résonner avec d'autres projets, d'autres types d'activités qui auront lieu à d'autres moments, qui seront menés par d'autres personnes. Deuxième question, enfin tension que j'ai pu expérimenter, que j'avais envie de mettre en avant, c'était la question de est-ce qu'on évalue plutôt la mise en œuvre ou est-ce qu'on évalue la performance, le résultat final. J'ai entendu tantôt un indicateur de performance. Et donc pour moi, là, il y a une tension parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'évaluer, tiens, mais ce qu'on a fait prévu, est-ce que ça s'est déroulé comme on avait prévu? Est-ce que les gens avaient l'air de participer, etc. que d'évaluer qu'est-ce que ça a donné comme résultat à la fin. Ce n'est pas le même timing, on n'a pas besoin des mêmes informations et ça ne sert pas à la même chose. C'est-à-dire que la mise en œuvre, c'est très pratique parce que je peux ajuster mes actions en cours de route et c'est souvent une activité très fine, enfin une information très fine et très spécifique que j'ai besoin et très rapide. Parce que si je pourrais m'ajuster, il faut que ça soit très spécifique aux activités que j'ai mises en place. Alors que les résultats, en partie, ça peut être spécifique, mais comme on l'a dit, on vise aussi des résultats un peu plus globaux dans une vision plus globale des personnes. Donc, voilà, c'est pas le même timing, parce que souvent on se dit, mais ça serait quand même intéressant d'évaluer les résultats, pas juste à la suite de l'activité, mais peut-être un peu plus tard, pour voir ce qu'il en reste. C'est un des gros problèmes à l'école aussi, hein. Qu'est-ce qui reste des apprentissages qu'on a évalués après l'interro, quand on revient 3 semaines après ou 1 mois après. Et donc, il y a pour moi là une tension potentielle. Est-ce qu'on est dans l'évaluation de l'impact ou est-ce qu'on est dans l'évaluation des processus? Alors, évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas totalement déconnecté, heureusement, les uns des autres, mais ce n'est quand même pas la même chose. Aussi, vous inviter à clarifier ça beaucoup plus parce que moi, j'essaye de faire beaucoup d'évaluations plutôt d'impact, si on veut. Je peux vous dire combien c'est coûteux de faire ça rigoureusement, combien c'est exigeant et combien ça prend du coup du temps et des ressources. Et donc, pour moi, une grande leçon de 20 ans de travaux avec notamment les écoles qui veulent évaluer, etc., et des associations qui veulent faire des évaluations d'impact, c'est extrêmement coûteux. Et pas toujours super intéressant par rapport au process. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit « Ah, ça marche pas sur tel indicateur. » Ok. Et ça nous fait une belle jambe, on fait quoi avec ça? C'est-à-dire que ça ne vous donne pas l'information sur qu'est-ce que je peux ajuster, où est-ce qu'il y a des choses à faire, où est-ce qu'il y a des choses à modifier éventuellement ou à améliorer. Et donc, voilà, c'est un prix en fait, c'est un prix important. Aussi, toute une série de travaux qui montrent qu'en fait, c'est pas si facile que ça d'évaluer les résultats ou l'impact ou les effets, que la satisfaction des gens n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils ont retenu d'une activité et les traces qui vont en rester plus tard, que les apprenants ou les enfants ne sont pas nécessairement les mieux placés pour vraiment dire ce qu'ils ont appris au moment même, c'est-à-dire qu'ils nous racontent des choses qui sont souvent des représentations sociales ou des idées qu'ils ont plutôt que... Voilà, et qu'en fait, on a des travaux qui sont super intéressants, qui montrent qu'en fait, il y a des activités qu'on déteste, mais qui sont super efficaces en termes d'apprentissage. Parce qu'on n'aime pas faire des efforts, mais qu'en fait, si on veut apprendre, à certains moments, il faut vraiment faire des efforts. Et donc, en fait, il y a des activités que les apprenants n'aiment vraiment pas, mais quand on regarde, ça les aide vraiment beaucoup à apprendre. Donc voilà, il peut y avoir vraiment des tensions à ce niveau-là. Et donc, pour moi, un des grands enjeux de l'évaluation, c'est vraiment... il y a différentes personnes à qui on s'adresse, comme ça a été très bien dit, on évalue à qui s'adresse l'évaluation ou à qui s'adresse telle partie de l'évaluation qu'on fait. Et notamment dans l'idée que si c'est pour les professionnels, ben, ok, mais c'est quelle info que vous avez besoin, à quel moment, pour pouvoir ajuster vos actions. Et ce n'est pas la même chose d'évaluer un résultat pour des pouvoirs subsidiants que d'évaluer un processus pour pouvoir ajuster ses actions et l'améliorer. Et du coup, ça pose aussi la question de la place du point de vue des bénéficiaires. Donc, un des pièges, en tout cas, quand je regarde les travaux en psychologie, c'est de se dire que l'évaluation, on peut la faire soi-même par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et là, on a une série de travaux qui montrent le gros problème, c'est qu'on est formaté pour repérer, détecter et regarder, voir ce qu'on attend. En fait. Nous sommes une formidable machine à anticiper et à repérer ce qu'on attend. Donc on est orienté par nos attentes, par nos croyances. Très très fort. Ça colore énormément notre attention, nos perceptions. Et donc à un moment donné, ce que je trouve intéressant dans l'évaluation, c'est comment avoir d'autres regards sur ce qu'on fait pour justement ne pas tourner en rond sur nos propres croyances, nos propres attitudes et auto-confirmer en fait et auto-justifier ce qu'on fait. Donc la place des bénéficiaires, la place des différents intervenants, par exemple le point de vue des enseignants, le point de vue des élèves, comment prendre le point de vue des élèves de façon pertinente pour qu'ils nous donnent des informations intéressantes, mais aussi par exemple, quelle utilisation de la vidéo. Et bon, ça se fait beaucoup de plus en plus en formation dans différents milieux professionnels. Ou quelle utilisation de l'observation. L'observation, c'est-à-dire par exemple ici, dans l'activité que vous avez faite, on aurait pu se dire, on fait des groupes, mais dans le groupe, il y a une personne, son rôle, c'est d'observer. Et on lui donne les questions d'évaluation à l'avance, et cette personne, elle observe et elle fait un feedback après, et elle n'aura probablement pas du tout le même point de vue que les personnes qui ont participé à l'activité. On peut faire ça avec des élèves, on peut faire ça dans des groupes. On peut aussi faire des échanges, et ça se fait de plus en plus aussi dans les formations professionnelles. Vous venez observer l'activité d'une autre association, avec votre regard à vous, et puis on débriefe. Et on fait la réciproque. Donc on fait de l'apprentissage par les pairs, mais on va vraiment voir comment les autres y font en action. Et on en discute, et on débriefe. Donc, voilà. Ou alors, on développe des projets en commun, par exemple, sur concevoir un dispositif ensemble, et puis on va tester chacun le process qu'on a essayé, le prototype, et on revient jusqu'au moment où on retravaille notre prototype, jusqu'au moment où on est satisfait, et avec différents publics, dans différents lieux, différentes associations, on dit, ouais, on est arrivé à quelque chose de satisfaisant. Donc, c'est pour vous donner des exemples de choses qu'on peut imaginer autrement. Sachant qu'évidemment, en un quart d'heure, je fais juste que brasser quelques idées et j'espère que ça va vous inspirer. Dernier point, dernière tension, c'est vraiment évaluer pour quoi faire et un peu par qui. Ça, c'est un constat que je fais quand même beaucoup dans ma pratique parce que ça fait, comme je vous ai dit, plus de 20 ans que je travaille avec des écoles, des milieux éducatifs qui souhaitent évaluer. La plupart du temps, la demande initiale, c'est aidez-nous à construire des indicateurs. Et puis, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on construit des indicateurs. On a des résultats intéressants, de notre point de vue. Mais qu'est-ce que les acteurs en font vraiment ? Et est-ce que ça les aide à mieux faire leur job ? Sincèrement. Et donc, une des grandes leçons, c'est les indicateurs en soi ne servent à rien. D'accord ? C'est un processus, c'est pas comme si on n'évaluait pas d'ailleurs. On est tout le temps en train d'évaluer ce qu'on fait. Okay, c'est un processus un peu spontané qu'on a. Est-ce qu'on arrive bien ? On voulait faire ça, on avait un but, un objectif. Est-ce qu'on y arrive plus ou moins ? Je vous disais, on peut se leurrer, mais c'est pas grave, on est dans ce processus-là. Donc, c'est pas comme si on n'essayait pas d'évaluer ce qu'on fait. La question, elle est de nouveau, bah, qu'est-ce qu'on évalue quand, comment, pourquoi faire, etc. Mais moi, je vois vraiment une grosse évolution dans le champ associatif, dans le champ éducatif et dans les écoles aussi. Vers de plus en plus, on doit créer des indicateurs, on doit définir des objectifs, etc., etc. Vous pouvez penser aux évaluations externes dans l'enseignement. Maintenant, on a un peu de recul dessus. On peut penser maintenant au contrat d'objectifs des écoles, etc., etc. Sincèrement, est-ce qu'on a une école qui fonctionne mieux depuis qu'on a des évaluations externes ? On peut se poser la question. Et donc, c'est parce qu'il y a une tension ou potentiellement des conflits entre améliorer ses pratiques. Et pour améliorer ces pratiques, oui, les feedbacks sont importants, je l'ai dit juste avant, aussi avoir des regards extérieurs, etc. C'est-à-dire sortir de ses propres croyances, son propre point de vue, sa propre perspective, c'est intéressant. Donc pas se limiter à l'autoréflexion, mais avoir des regards extérieurs, ça semble vraiment utile. C'est une des bases et c'est un des facteurs les plus efficaces dans l'apprentissage, c'est des feedbacks. Mais il y a une grosse tension qui est, on l'a dit tout à l'heure, justifier ce qu'on fait. Surtout en partie décider qu'est-ce qui mérite des subsides. Et là, on voit en fait, il y a vraiment toute une littérature qui s'est développée là-dessus, il y a d'énormes risques de dérive, et moi je le vois aussi, c'est-à-dire ça devient un monstre bureaucratique où on fabrique du chiffre, on produit du chiffre, ça prend énormément de ressources, d'énergie à la part des acteurs, ça leur prend du temps qu'ils ne consacrent plus à leur mission première. Et en fait, ce chiffre, il est soit dans un rapport d'activité, soit il est envoyé à l'administration, et on se demande bien à quoi ça sert. C'est-à-dire en quoi ça améliore ce qu'on fait. Donc moi, je suis un grand défenseur de l'évaluation. Si je fais de la recherche, c'est en partie parce que je pense que c'est super important d'avoir ce regard extérieur et se frotter en fait à une autre perspective, à un autre regard sur ce qu'on fait et une autre façon de voir la réalité. Mais je constate qu'il y a énormément de dérives dans cette injonction à vouloir produire des indicateurs, surtout quand les indicateurs deviennent des finalités. Il y a des tricherie, et donc ça envoie vraiment à la question de à quoi est-ce qu'on consacre nos ressources qui sont par définition limitées. Donc, deux questions pour finir par rapport à ça. Est-ce que vraiment on a tout le temps tout besoin d'évaluer avec des indicateurs de performance? Est-ce que comme société, on peut regarder autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas des activités qu'on décide qu'en fait elles valent la peine en soi et qu'on ne doit pas tout le temps les amener à justifier? Et deux, évaluation, mais alors évaluons l'ensemble des politiques avec des critères plus ou moins similaires. Moi, je fréquente de plus en plus de collègues qui sont océanographes, qui travaillent sur la biodiversité, etc. Ce qu'ils nous disent, c'est très très clair, vous connaissez tout ça. Ils disent qu'on est en train de tuer le vivant, nous y compris. Et donc, oui, on peut évaluer les activités d'éducation relative à l'environnement en termes de performance, mais alors évaluons aussi les aides aux entreprises, les mesures d'austérité, qu'est-ce qu'elles font. Et pour l'instant, si on prend ces indicateurs-là, les bilans des politiques gouvernementales sont déplorables. Donc, tous les scientifiques nous disent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ce n'est pas un avis partisan, c'est ce que nous disent les données, les scientifiques nous disent, pour l'instant, ce qu'on fait, on va dans le mur. Et donc, voilà, ça pose la question de nouveau, qui décide qu'est-ce qu'on évalue pour faire quoi. Voilà, merci beaucoup.